Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Art Essai de Fort-Calquier, le Bourguet. Je vous retrouve chaque semaine pour vous parler de la programmation du cinéma, la programmation de la semaine. En l'occurrence, celle-ci couvre la période du 6 au 12 mars, c'est la dernière semaine des vacances d'hiver. 6 films sont à l'affiche, 2 séances spéciales sur lesquelles on conclura cette émission. On commence avec Madame de Sévigné, un film d'Isabelle Brocard, inspiré de la correspondance de Madame de Sévigné. Alors connaissez-vous, au-delà de son nom, ce n'était pas trop mon cas, Madame de Sévigné, femme du XVIIe siècle, qui est célèbre donc pour sa correspondance. Et évidemment, la correspondance à l'époque jouait un rôle très très fort, socialement notamment, politiquement aussi. Et la relation qu'elle a tissée, la relation passionnelle qui existait entre Madame de Sévigné et sa fille. Elle lui souhaitait, comme à elle, une émancipation féminine, une condition féminine qui était différente de celle de l'époque et une véritable indépendance vis-à-vis des hommes. Et ce que le film montre de manière subtile, et c'est vraiment intéressant de montrer cela aujourd'hui évidemment, c'est que cette fille s'est refusée à ce désir de sa mère et qu'elle a épousé un marquis, je crois, ou un comte à Grignan dans la Drôme et qu'elle a... Voilà, enchaîner les enfants et que sa mère la voyait donc aller à l'encontre systématiquement des désirs qui étaient les siens. C'est très intéressant de voir cette relation entre la mère et la fille. La mère est jouée comme toujours très bien par Karine Viard, la fille est jouée par Anna Girardot et puis le monsieur de Grignan, donc le mari, est joué par Cédric Kahn, le réalisateur Cédric Kahn, qui est très bien, qui est d'ailleurs originaire de la Drôme. À ses côtés, Noémie Lvovsky joue Madame de Lafayette et Romain Renucci, Monsieur de La Rochefoucauld. Et c'est un plaisir de s'immerger dans cette époque à travers les paysages d'aujourd'hui, notamment ceux de la Drôme. Ils ont tourné d'ailleurs dans le véritable château de Grignan. Et de suivre, de retrouver tout le contexte extrêmement clivé socialement de classe, voilà. Et les enjeux, notamment aussi économiques, d'une époque où l'on voit notamment Monsieur de Grignan pris à la gorge par ses charges, ses diverses charges, et peinant à les assumer avec sa femme, les enfants et toute la charge familiale contre lui en quelque sorte. Donc le film restitue ses conditions propres à une époque. Karine Viard se montre vraiment très bien comme une mère assez étouffante, assez sclérosante, et Anna Girardot assez pétillante, cherchant forcément à s'inscrire en faux par rapport à sa mère. Voilà, le film est simple, mais juste dans cette description d'une époque et de ses personnages. Isabelle Brocard, on la connaissait pas quasiment. Elle avait réalisé un premier long métrage il y a 10 ans qui s'appelait Ma compagne de nuit. C'était un film avec Emmanuel Béart et Afzia Herzi. Elle nous revient avec un film assez classique sur la forme, mais assez surprenant sur le fond, puisqu'il prend un peu le contre-pied quand même des tendances de notre époque, et c'est précisément cela qui s'avère intéressant et bien joué, bien écrit. Le film donc s'intitule Madame de Sévigné, il est programmé pour 5 séances.
Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée.
Madame de Sévigné, vous vous égarez.
Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi. Vous vous marierez. Tout ça sera oublié. Grignan !
Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts.
Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. Si je pouvais vous la dépeindre. Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille. Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation.
L'argent me manque de plus en plus, je me ruine.
Et vous me l'avez caché. Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris. Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre.
Grignan va faire mourir ma fille.
Non. Françoise, il use d'elle. Il abuse d'elle.
Sortez.
Vous ne savez plus l'aimer. Vous en êtes juste obsédé.
Alors c'est un tout autre voyage que nous propose Lisandro Alonso, le cinéaste argentin, avec Eureka. Eureka un peu comme un mot de passe, un sésame pour une entrée dans un monde aux multiples dimensions. J'avais vu le film à Cannes en fin de journée, ça devait être le cinquième film de la journée. Le film était programmé à 10h, il durait 2h30, vous voyez le genre. Et j'étais dans un état de demi-sommeil. Et cela dit, j'ai très envie de revoir le film avec vous en le programmant au Bourguet. Mais cet état de demi-sommeil était finalement assez profitable au film parce que on y entre, on y évolue au fur et à mesure comme un somnambule. Le film est... comment dire ça ? Le chemin que propose le film s'avère in fine totalement onirique, avec une dimension fantastique, voire merveilleuse assez forte, et il faut vraiment se laisser porter à travers les diverses dimensions qu'il propose. Le film est constitué de trois espaces-temps, est un triptyque, et il est important, je pense, d'aller au bout de ce voyage pour prendre la mesure du chemin parcouru et que le film nous proposait d'emblée. Le film commence avec un western en noir et blanc, et on peut être dans un premier temps sceptique face au code plus ou moins détourné du western, à la dérision et à l'ironie aussi qui s'en dégage. Et puis il y a une partie centrale, longue, qui est fascinante et remarquable, avec notamment une interprète native autochtone qui s'appelle Alaina Clifford, et d'ailleurs c'est aussi le prénom de son personnage, Alaina, qui est une flic qui assure une tournée de nuit. Et le film là nous embarque vraiment dans une temporalité et un rythme proprement fascinant. Une troisième partie dont je ne vous dis rien va nous emprunter un autre chemin encore pour un voyage qui va nous mener vraiment au-delà de la raison en quelque sorte. Et le film déroule un fil quand même autour de la condition des natives américains, des autochtones, et de la condition qui leur a été faite depuis 500 ans par les Américains sur les trois continents américains en quelque sorte, en tout cas Amérique latine et Amérique du Nord. Et c'est proprement vraiment fascinant. Il faut vraiment se laisser porter. On pense à la fois à Pichatpong Veracetacool et à Miyazaki. Et on y croise les visages familiers de Viggo Mortensen et Chiara Mastroianni. Mais c'est une fausse piste, finalement, cette voie-là, même si elle peut se montrer intéressante. Lisandro Alonso, c'est un cinéaste essentiel de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma argentin au début des années 2000. La Libertad en 2001, Los Muertos en 2004, Fantasma en 2006, Liverpool en 2008, Raora en 2014, et voilà donc près de 10 ans qu'il n'avait pas réalisé un film. Et bah, c'est ce film-là, et c'est heureux et réjouissant de prendre des nouvelles d'un tel cinéaste aussi important, aussi injustement méconnu, et qu'il nous revienne avec un film qui a ce souffle, cette ampleur et cette profondeur-là. C'est un voyage, je vous le dis, je vous le recommande, mais qui sans doute vous déstabilisera, et pour ma part, c'est pour cela que je vais au cinéma, pour être dérangé, troublé, stimulé. Ce film suscite tout cela. Il est programmé pour 5 séances au cinéma cette semaine, entre vendredi et mardi. À mon sens, ne le manquez pas. Eureka de Lisandro Alonso, film argentin.
Grandfather, I'm ready now.
Once you make the decision, you can never go back. When you wake up, everything's gonna be different. And my hands will guide you. Say goodbye to everything. always remember, space, not time.
Sans jamais nous connaître est le titre français d'un film britannique dont le titre original, c'est toujours plus beau quand même les titres originaux, en anglais donc, s'appelle All of Us Strangers. C'est un film de Andrew Haig, je ne sais pas bien comment on prononce ce nom. Andrew Haig, que pour ma part je ne connaissais pas, est un réalisateur du Yorkshire en Angleterre, qui a été assistant monteur sur des films de Ridley Scott. Il a 50 ans aujourd'hui. Et on l'avait découvert en 2011 avec un film qui s'appelait Weekend. Moi, je me souviens surtout d'un film en 2015 qui s'appelle 45 ans, qui était assez beau, avec Charlotte Rampling et Tom Courtenay. Et puis, il avait réalisé un film qui s'appelle La Route Sauvage, Lean on Pitt, que j'avais bien aimé aussi. C'était en 2017, avec notamment Chloé Sevigny et Steve Buscemi. Il nous revient avec un film surprenant, assez gonflé, Sans jamais nous connaître, All of Us Strangers, est adapté d'un roman qui s'appelle Strangers de Taishi Yamada, paru en 87. Ce film-là, Sans jamais nous connaître, a suscité beaucoup d'émotions. Il est surprenant dans le genre qui est le sien, en quelque sorte, évoquant une relation amoureuse entre deux garçons qui vivent au sein d'une même tour, dont les appartements sont largement inoccupés. La relation qui va se tisser entre eux va voir aussi, des fantômes de l'un, de la vie d'un d'entre eux va se joindre à cette histoire-là. Et vous risquez d'être bouleversé par ce film, parce que ce film-là fait affleurer à la surface du présent une multitude de rapports à l'enfance, de traumas, de souvenirs plus ou moins douloureux. Et voilà, le film est aussi un mélo par toute cette matière qu'il révèle. Il est porté par deux acteurs absolument formidables qui sont Andrew Scott, que je ne connaissais pas pour ma part, et Paul Mescal, qu'on avait découvert. À la fois, les deux, vous avez pu les découvrir dans la série Normal People en 2020. Paul Mescal, tout particulièrement, a vraiment été connu là. Mais on l'a vu l'an passé dans After Sun, où il était un père bouleversant, le premier film de Charlotte Wells. Et on le retrouve ici. Il sera dans le prochain Gladiator de Ridley Scott, par ailleurs. Et puis Andrew Scott, il jouait aussi dans la série Sherlock, où il interprétait l'ennemi juré de Sherlock Holmes, Jim Moriarty. Les deux sont absolument poignants. Le film vous touchera sans doute beaucoup, et c'est un plaisir, ma foi, de vous le proposer. Sans jamais nous connaître, donc, de Andrew Haig est programmé pour 5 séances cette semaine.
Hello.
Hi.
Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. This is your mom and dad?
Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment.
How's it going?
Strangely. Hi.
Hi.
Is this real?
Does it feel real?
My boy's back home.
Well, son, look at you. You were just a boy. And now you're not.
It was a long time ago.
Yeah, I don't think that matters.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should.
I've always felt like a stranger in my own family.
I'm always scared of something. Always running away, do you remember?
Sorry I never came in your room when you were crying.
It's funny, it doesn't take much to make you feel the way you felt back there again.
Do you think you'd like to be in love with them?
I'd always felt alone. This is a new feeling. You and me together into the world.
Le Royaume des Abysses est un film d'animation. Et quelle animation! C'est proprement bluffant là, ce que vous allez voir peut-être. Alors on est en pleine période de vacances, le film est recommandé à partir de 10 ans, mais on peut aussi bien dire qu'il est bon certes pour les adolescents, mais surtout pour les adultes, et en tout cas n'y emmenez pas des enfants en deçà de 10 ans. Il est assez vertigineux, l'histoire est quand même assez complexe aussi, enfin bref, c'est pas vraiment un film pour enfants, ou en tout cas à partir de 9-10 ans dans le meilleur des cas. Ce film-là est un film chinois. C'est un film d'une ambition folle et démesurée, comme le cinéma chinois ne nous avait pas proposé encore de films d'animation, et la Chine commence à exister justement dans cette industrie du cinéma d'animation que l'Europe, le Japon évidemment, et l'Amérique tout particulièrement a phagocyté depuis des décennies. Et ce film est incroyable. C'est un voyage assez impressionnant, qui nous est proposé par un réalisateur dont je ne connaissais rien. Il s'appelle Tian Xiaopeng. Le titre original du film, c'est Deep Sea. Et l'animation est un vrai tour de force, vraiment. Je crois qu'on n'a jamais vu un film d'animation avec ces qualités-là. On a l'impression d'être pris dans un tourbillon, et le rapport même sensible qu'on a à l'image est totalement inédit. À la fois, il emprunte au manga, mais à l'impressionnisme européen de la fin du 19e siècle. On a là parfois l'impression que l'image se détache et nous aspire, et le film se passe dans les abysses sous-marines. Et si, comme parfois l'histoire peut être un peu secondaire, on se laisse complètement prendre par ce trip sensoriel hallucinant que propose le film, Le Voyage des Abysses. Si vous aimez Miyazaki, je pense que vous allez vous laisser totalement emporter, mais c'est une autre expérience que le film propose, et c'est une expérience visuelle inédite que l'on vous recommande ô combien. Vous allez voir que c'est une frénésie colorée, subjugante, et le film nous prend vraiment comme une vague, puisqu'on est vraiment dans la thématique aquatique, on est vraiment pris dans une déferlante qui sans doute vous laissera pas indifférent et indifférente. Et ce film, donc, en ceci qu'il est une expérience rare, on vous le recommande, et on est heureux de le proposer en cette fin de semaine de vacances pour 3 séances. Il est programmé ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi à 16h à chaque fois, donc mercredi, jeudi, vendredi à 16h, Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng en version française.
Non mais d'où tu sors, toi?
J'ai besoin de retrouver ma maman.
Tu comptes pas garder la gamine?
Il n'y a qu'elle qui peut nous aider.
Aide-moi à atteindre l'œil des abysses. C'est l'antre des Poculus. Ils me mèneront à la fortune et toi à ta maman.
Fais demi-tour! C'est trop dangereux!
Tu dois aller jusqu'au bout de ta quête. La vie n'est-elle pas une aventure? Il ne faut pas passer à côté.
On termine avec les deux films qui font l'objet d'une séance spéciale. Et ces films-là sont très beaux. On est heureux de vous les proposer, vraiment. Le premier s'appelle Une jeune fille de 90 ans. C'est à l'initiative du festival Femmes en scène, que vous connaissez sans doute. J'ai été contacté par Odile Vidal pour y prendre part. Ce n'est pas la première fois. Le cinéma de Fort-Calquier y a pris part quasiment chaque année, depuis 8 ans en tout cas. C'est la 14e édition du festival Femmes en scène, qui s'organise autour de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Mais il dure 2 semaines, il rassemble des expositions, des conférences, des films, des spectacles. Vous pouvez consulter le programme en ligne, il est porté par l'association Corps Espace Création. Et donc le cinéma s'inscrit là pour une séance spéciale le jeudi 7 mars à 18h30. Et sur une proposition de l'association, nous programmons, et je l'ai découvert à cette occasion et j'étais heureux de le découvrir, et je suis heureux de le programmer avec le festival, ce film formidable, extrêmement poignant, qui s'appelle Une jeune fille de 90 ans. C'est un film documentaire de Valeria Bruni-Tedeschi et Yann Corridian, où l'on retrouve Thierry Tionyang. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Tionyang, qui est un chorégraphe dont moi j'ai vu des spectacles, et j'ai même pris part un jour à un stage avec lui, et j'ai vu des spectacles auxquels il avait collaboré, signé Patrice Chéreau. Et c'est un chorégraphe extrêmement talentueux qui s'est fait presque une spécialité de travailler avec des personnes très âgées. Et pour ce film, le réalisateur et la réalisatrice, donc notamment Valeria Bruni Tedeschi, l'ont suivi dans un service gériatrique avec des personnes très âgées qui, pour certains, certaines, sont touchées par le Alzheimer. Et notamment une femme qui s'appelle Blanche Moreau, qui a 92 ans, et qui est particulièrement éteinte, assez mutique, qui tisse difficilement dans le service des relations avec les autres, et qui va totalement se révéler, montrer une extériorité qu'on ne connaissait pas, parce que Thierry Tuenyang vient dans le service et va assurer une forme d'atelier avec ces hommes, ces femmes très âgées, et les inviter à pratiquer des mouvements de danse, des gestes, et les accompagner au plus près dans ce travail, dans ces exercices extrêmement touchants. C'est d'une douceur et d'une délicatesse merveilleuse. Valeria Bruni Tedeschi, Yann Corédian filment cela, et notamment l'éveil que cette pratique et que cette relation physique, quasiment sans mots, va occasionner en cette femme de 92 ans, qui va tomber amoureuse de Thierry Tuenyang, le chorégraphe. Et ça peut paraître abusé d'employer ce terme, mais c'est exactement ce qui se passe réellement, et c'est impressionnant, c'est vraiment extrêmement troublant et extrêmement touchant, bien sûr, de voir cette femme s'éveiller ainsi. Le film est un bonheur, vraiment. Je pense que vous allez vous-même vous émerveiller à sa découverte ce jeudi à 18h30. On vous incite à ne pas le manquer, vraiment. Dans le cadre de ce festival Femmes en scène, il y aura une discussion à la suite du film avec l'équipe du festival. Le film s'appelle Une jeune fille de 90 ans. On est heureux de vous le proposer. C'est ce jeudi 7 mars à 18h30 et il y aura une séance de rattrapage le lundi 11 mars à 14h30. Prendre le thé. On en vient à la deuxième séance spéciale de la semaine. Elle aura lieu samedi 9 mars à 18h30. Je suis très heureux de partager avec vous ce film à la fois drôle et terrible, extrêmement émouvant, qui ne ressemble à rien. C'est un ovni, comme on dit. Il est signé Uri Milstein. Je vous dis un mot d'Uri Milstein que je serai très heureux d'accueillir à cette occasion. Pour moi, c'était un peu une condition sine qua non. C'est un film tellement personnel qui suscite des émotions, des rires, des réflexions qui viennent nous toucher au plus profond, au plus sensible en nous. Et c'était essentiel pour moi qu'Uri Milstein, que je ne connais pas du tout personnellement, mais qui se livre beaucoup, qui livre là sa vie et c'est celle de ses proches aussi à travers ce film, qui peut paraître impudique parfois, mais c'est pour le meilleur, je trouve, qu'un film à la fois drôle, d'autant plus drôle qu'il nous livre là une multitude de tragédies à laquelle il a dû faire face, à titre individuel, familial, à titre aussi d'homme juif vivant en France. Et cette judéité est vraiment questionnée à travers ses films, dans sa relation à son père, qui était peintre, à toute sa famille, à la famille qu'il a aussi composée au fil de ses mariages successifs. Et notamment, il s'est marié au début des années 90 avec une femme qui est la fille d'Enrico Macias, le chanteur. Et le film commence et accorde une large part à ce mariage, d'où le titre. Et pour ton mariage est le titre d'une chanson d'Enrico Macias, bien sûr. Et à partir de là, le film, c'est un patchwork d'archives personnelles, familiales. Il y a aussi plusieurs séquences qui ont été tournées aujourd'hui, où notamment ces archives sont visionnées par les membres de sa famille actuelle, ses enfants, ses fils des deux mariages, ses deux compagnes, ses deux épouses dont il a divorcé, où certains deuils aussi sont évoqués. C'est un film étrange et fascinant. C'est un film cathartique aussi, sans doute, pour Uri Milstein. La dimension psychanalytique, elle est assumée avec tout l'humour qui est plus que jamais ici la politesse du désespoir, comme on dit. Et ça va être, je pense, bouleversant et drôle de parler avec Uri Milstein, parce qu'il se livre et on voit bien la personnalité qui est la sienne. Et comment, et c'est là, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est ce qui fait la force aussi de certains mélodrames, c'est-à-dire comment faire face à la tragédie, à l'occurrence familiale, mais ça va aussi au-delà, individuelle et collective, et comment l'humour nous permet, la dérision nous permet de faire face en dépit de tout. Ça va être, je pense, très touchant d'évoquer tout cela avec lui. On va prendre ce temps. Uri Milstein était pendant 40 ans directeur de production. C'est important de le dire parce que c'est un homme de cinéma qui travaille depuis plus de 40 ans dans le cinéma. Il a été notamment directeur de production d'Agnès Varda pour Santoine Iloa, pour Kung Fu Master, pour Cédric Kahn, Barderaï. Mais il l'a été surtout pour Arnaud Desplechin, depuis Comment je me suis disputé, Esther Kahn, jusqu'à des films plus récents. Et je crois que c'est aussi ce personnage d'Uri Milstein, parce qu'il en est un, en tout cas il en est un dans les films de Arnaud Desplechin, et pour moi qui connais bien la filmographie de Desplechin, je peux vous assurer qu'après avoir vu Pour ton mariage, eh bien j'y vois une clé de lecture passionnante d'une part de l'œuvre de Arnaud Desplechin, et nous pourrons aussi en parler avec lui. Et ça va être une rencontre merveilleuse, voilà, ce samedi 9 mars à 18h30. On aura vraiment le temps d'un bel échange avec lui derrière. Uri Milstein, son film s'appelle Pour ton mariage, et il est programmé pour 3 séances cette semaine. Il y a cette première séance avec lui samedi à 18h30, mais le film est programmé également dimanche à 21h et lundi 11 à 16h30.
En épousant la fille d'Enrico Macias, je ne me doutais pas que 30 ans plus tard, je lui en voudrais encore d'avoir transformé nos noces en show démesuré. On aurait cru que c'était lui le marié.
Quelle photo tu veux, Ariel ?
Voilà, ça c'est formidable. Bien.
C'est un mariage formidable.
En revoyant ce film de mariage, je réalise que c'est vraiment là que j'ai commencé à fonder une famille. 2 fils, une séparation, 3 filles, une autre séparation, un deuil. J'ai quitté... Sur la tombe de mon psy, je tente une sorte d'inventaire que nous ont légué nos pères et nos mères, et moi, que vais-je laisser à mes enfants ? Comme mon psy ne répond pas à mes questions, j'organise une réunion de famille. Vous avez déjà fait un dîner avec vos ex-femmes et vos enfants des différents lits, comme on dit. Je pensais que c'était une bonne idée, mais non.
Qui est trahison vis-à-vis de toi, ça n'a rien à voir avec les enfants.
Je parle des choses comme moi, je les ressens.
On doit dire quelque chose là parce qu'on sait qu'après, dans 3 mois, on va se remettre sur la table et qu'on parle du fait d'être juif pendant une heure et demie, qu'après on re-regarde la même discussion.
On n'a pas parlé de l'un pour l'instant.
Mais structure un peu.
De toute façon, c'est le truc de Doury, c'est qu'il pense qu'on lui doit quelque chose. Tous.
Oula, j'ai fait 20 ans de psychanalyse, hein. Je suis tout à fait... Mais je pense qu'il y a un moment de parler, ça c'est limite, quoi. Ah, je dis ça parce que j'ai essayé l'EFT. Tu te tapotes à des endroits comme ça, si, et ça permet de déprogrammer. Bah ouais, mais je pense que c'est bien de passer par le corps aussi.
Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de vous croiser au cinéma.